Question clé de ce 21e siècle est celle du développement durable qui conduit progressivement à tout revoir, valeurs, style de vie, usage du temps, des transports, de l'aménagement de l'espace, des institutions, puisque le besoin d'une nouvelle gouvernance est souvent cité. Et parler de développement durable, c'est aussi débattre de l'avenir des villes et l'invention du territoire. Aujourd'hui, nous allons parler des projets et du mode de gouvernance pour l'aménagement pour Genève en compagnie de Robert Kramer, conseiller d'État en charge du département du territoire. Et nous sommes également en compagnie de Bruno Vessière, directeur de la Fondation Braillard Architecte.
Bonjour Robert Kramer.
Voilà, bonjour.
Alors le terme de métropole lémanique est de plus en plus utilisé pour parler d'un territoire transfrontalier et transcantonal. Robert Kramer, vu l'importance de Genève dans cette métropole, votre département devient-il le pilote de fait de cet ensemble ?
Disons, si l'on parle de métropole lémanique, certainement pas. Si l'on parle d'un projet d'agglomération transfrontalier, c'est-à-dire au fond Genève et la partie de la France qui nous avoisine le plus, ainsi peut-être que le district de Nyon, alors assurément oui, puisque on est clairement l'élément le plus lourd dans cet ensemble. Genève, c'est à peu près 440 000 habitants aujourd'hui, et ici on parle d'une entité de l'ordre de 700 000 à 800 000 personnes.
Alors vous voyez cette métropole avec un centre unique ou des pôles d'attraction qui seront réunis en réseau?
Moi, déjà, le mot métropole ne m'enchante pas. Hein. Je préfère parler d'une agglomération transfrontalière, mais c'est vrai qu'en France, on parle d'un projet de métropolisation, donc il ne faut pas s'attacher sur les mots. Ma perception, c'est plutôt de savoir comment, dans cet espace, nous arrivons à aménager notre cadre de vie. Au fond, il s'agit d'élargir une démarche que nous avons pu faire au niveau du canton de Genève, de l'élargir dans le cadre adéquat, c'est-à-dire ce cadre, grosso modo, de 40 km autour de Genève, où les gens se déplacent, où les gens travaillent, où les gens commercent, où les gens ont des loisirs. Et c'est cette échelle-là qui est l'échelle adéquate pour parler d'aménagement du territoire. Évidemment que lorsque l'on parle d'autre chose, par exemple des relations économiques, de la promotion économique, alors là, c'est d'autres échelles qui sont pertinentes et qui sont des échelles beaucoup plus larges, qui réunissent des millions de personnes. Et dans ce contexte, c'est clair que cette métropole bipolaire Genève-Lausanne a beaucoup plus de sens. C'est la promotion économique de Geneva Country ou Lake ou ce que vous voulez. Mais si on parle d'aménagement du territoire, il me semble que notre échelle est plus petite, qu'on voit à peu près comment elle se dessine, qu'on voit aussi très bien les problèmes de coordination qui se posent, c'est-à-dire avec le canton de Vaud, il n'y en a pas, parce que nous bénéficions les deux d'un même cadre législatif national, et au fond, c'est relativement simple. Et puis avec la France, c'est très compliqué, parce que c'est des institutions totalement différentes, donc la nécessité de se coordonner.
Alors, il y a eu le projet de fusion Vaud-Genève. Maintenant, on parle d'une idée d'une instance supracantonale en même temps avec la collaboration des autorités françaises. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'un niveau institutionnel supplémentaire pour piloter cet ensemble ?
Personnellement, ça me semble prématuré de poser la question en termes institutionnels. Mon expérience personnelle de politicien et de magistrat, c'est que d'abord il faut faire les choses et puis ensuite les structures suivent. Et commencer à poser le débat sur les structures plutôt qu'en termes de réalisation, c'est la bonne façon de vouloir l'éluder. Quand on ne veut pas parler de quelque chose, on commence à rédiger les constitutions, à se poser des grandes questions sur les cadres.
Bruno Vessière.
Surtout qu'effectivement, en termes de transfrontalier, une gouvernance réelle est quand même impossible parce que les enjeux électoraux ne sont pas les mêmes, les échéances ne sont pas les mêmes, les négociations pour faire de l'aménagement ne sont pas les mêmes non plus au niveau réel. Donc ce qu'il faut, c'est faire des opérations.
Alors on pourrait imaginer, bien sûr, autour du CRFG, qui est un truc qui existe, on pourrait y insuffler plus de démocratie,
y associer
des élus, etc., des choses de ce genre. Mais au fond, moi, mon expérience, en tout cas personnelle, de ce gros dossier, qui est le dossier de CEVA, de la liaison Carnavant du Hanmas, c'est que quand on a fait la charte du développement des transports publics régionaux, la charte du DTPR, avec nos voisins français, on ne s'est pas posé la question de savoir qui était habilité à faire quoi, si nous avions même le droit de nous parler, si nos gouvernements respectifs étaient d'accord qu'on parle de ce genre de choses. On s'est simplement mis autour d'une table en se disant il faut qu'on organise de façon transfrontalière les déplacements sur rail, chacun a amené les collaborateurs et les techniciens qui avaient des compétences dans ce domaine. Et puis, on a fait une carte. Et puis, on va se débrouiller pour que les rails, si possible, arrivent au même endroit à la frontière.
Bruno Vichier.
Robert a raison de dire que le problème, c'est que l'intervention publique, quand il y a plusieurs centaines de communes, évidemment, et un rayon comme ça, institutionnel, 40 kilomètres, qui mélange à la fois deux États et des cantons, c'est assez compliqué. Alors, je sais que François Martalère, donc le conseiller vert vaudois, dit qu'il a voté, lui, pour la fusion Vaud-Genève, mais c'est sa dirty privacy, ça. C'est un peu anecdotique. Non, c'est évident que s'il y a une meilleure mécanique institutionnelle, ça peut oublier les choses, mais l'important aujourd'hui, c'est d'avoir, évidemment, de l'efficacité. Et donc, l'efficacité dans l'opérationnel, en sachant que l'aménagement du territoire, c'est piloter un bateau énorme à l'horizon de 5, 10, 15, 20, 30 ans, voire plus.
Mais vous disiez tout à l'heure, Robert Carmer, que les décisions sont aussi prises de manière générale dans les plans directeurs et que vous pouvez difficilement influer sur le cours des choses. Est-ce que c'est aussi difficile ?
Alors, influer sur le cours des choses, bien sûr que je le peux. J'entends, c'est pas... magistrat, on a la chance d'être entouré d'un bon nombre de collaborateurs, d'avoir des ressources financières à disposition, d'avoir la possibilité de prendre des décisions de nature formelle, bien sûr qu'on influence sur le cours des choses. Simplement, on n'est pas un potentat qui, du jour au lendemain, décide « voilà comment je vais faire » et puis hop, ça se fait. Ça ne se passe pas comme ça pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un cadre qui est posé à l'action. En l'occurrence, le cadre en matière d'aménagement du territoire, c'est le plan directeur cantonal. Donc on doit se situer dans ce cadre. Et puis la seconde raison, c'est qu'il y a des procédures et que même si l'on est dans le cadre, eh bien, il faut ensuite les respecter. Il faut être attentif à ce que les personnes concernées peuvent avoir à dire. Il faut adapter les projets, etc. Et tout ça, ça signifie que c'est pas en appuyant sur les boutons que les choses se font.
Oui, mais c'est important aussi de pouvoir savoir sortir légèrement du cadre. Enfin, aujourd'hui, les expériences en Angleterre, surtout un peu en Allemagne, c'est que précisément le patron de l'aménagement du territoire, donc le pilote politique, c'est quelqu'un qui essaie quand même de négocier au maximum en sachant qu'il y a le secteur privé est de plus en plus important et qu'il y a des experts à côté, bien sûr, il y a des spécialistes, des magistrats qui sont les garants du droit, mais que le vrai patron doit de temps en temps essayer de trouver d'autres modes de faire la sauce.
Il faut trouver des chemins. Je crois surtout aussi qu'il faut donner des messages clairs. Alors, les messages clairs que, pour ma part, j'essaye de donner, c'est d'abord de dire que on ne peut pas faire de l'aménagement du territoire si on n'a pas véritablement un grand souci de la préservation de l'environnement. C'est une des composantes, mais l'histoire de dire « je vais mettre des maisons là, puis la tendance va suivre, et que la tendance, ça s'appelle les transports publics, le fait de respecter les normes en matière de qualité de l'air, le fait de respecter les normes en matière de bruit, le fait de respecter les questions liées à la perméabilité du sol et à la gestion de l'eau à la parcelle, eh bien, ça ne marche pas. Ça fait de très mauvais projets. Et quand on fait de mauvais projets, les gens sont malheureux de vivre dans ces projets. Ils font l'objet d'oppositions multiples qui coincent quand on essaye de les réaliser. Et même, ça peut se traduire par toute une série de problèmes sociaux si les gens sont véritablement très malheureux de vivre là-dedans. Donc, c'est autrement qu'il faut faire. Ces éléments doivent être intégrés au moment même où l'on dessine le projet, parce que c'est ça ce qui fait un bon projet, c'est de réfléchir avant, et ça fait aussi finalement gagner du temps. Alors ça, c'est ce que je peux dire comme patron, entre guillemets, en matière d'aménagement du territoire. Je peux dire à mes collaborateurs, soyez attentifs à ces questions à la base. La seconde chose que je peux leur dire, c'est ne dessinez pas des trucs tout seul dans votre bureau. Quand on dessine quelque chose, on le dessine avec les communes, et puis on part très vite de l'idée qu'il y a quelqu'un qui va construire. Et ce n'est pas le rôle de l'administration que de dessiner les bâtiments. Il y a un moment donné, très tôt, où comme tu le disais, les privés doivent intervenir. C'est le gars qui met son argent dans l'immeuble, qui doit
se faire. Il y a une négociation finale avec le promoteur.
Enfin, travail. Autrement, on fait le travail à double. Il y a d'abord le dessin de l'administration, puis après il y a le dessin qui se réalise.
Donc l'environnement, c'est plus un mode supérieur de régulation collective, en fait, pour que les gens aient une énergie commune, en fait, aussi sur un type de projet.
Je crois que c'est effectivement de cela qu'il s'agit, oui.
Alors, plusieurs géographes qui sont venus dans ce studio nous ont expliqué que maintenant les nouvelles limites du territoire étaient celles qui accompagnaient les déplacements des personnes, donc qui s'installent. En réalité, avant de dessiner dans les bureaux, comme vous disiez tout à l'heure, il y a d'abord, si on peut dire, les habitants qui dessinent la ville ou leur environnement. Et là, est-ce que intervient le problème ou la question de la mobilité ?
Elle intervient totalement parce que il le dessine pas toujours comme il souhaiterait le dessiner. Aujourd'hui, les gens qui font 1h30 de voiture pour aller travailler à Genève et qui font le même temps pour rentrer chez eux, ils préféraient de très loin avoir un autre dessin, c'est-à-dire avoir la possibilité d'habiter plus à proximité de leur lieu de travail. Mais ils n'y ont pas accès parce que on ne construit pas suffisamment à Genève. Donc les gens font des choix, mais ces choix sont aussi contraints par ce que l'on met à leur disposition. Et chacun comprend bien que pour des raisons très clairement d'ordre environnemental, il faut aujourd'hui que l'on construise beaucoup plus à Genève, parce que ce sera la façon de régler toute une série de questions liées à la mobilité. Et puis, parler de mobilité, c'est pas parler de choses abstraites, c'est parler de sécurité, c'est parler de pollution de l'air, c'est parler de pollution sonore, donc c'est parler véritablement d'un certain nombre d'affections qui menacent les populations.
Alors justement, c'est pour proposer des logements en ville, vous êtes pour une densification à ce moment-là de l'habitat intérieur de la ville ?
Oui, en ville, hein, je crois que...
C'est plus compliqué que ça.
disons, en ville, il y a certainement encore quelques possibilités de construire. Hein, sur le territoire de la ville de Genève, on voit bien que du côté de la Servette, il y a, plutôt du Boucher, il y a quelques plans localisés de quartier qui sont actuellement contestés, qui feront l'objet de votations prochainement à Genève, en ville de Genève. Et j'entends m'engager dans ce combat parce que il me paraît important de faire passer le message qu'on a besoin de logements et qu'on en a aussi besoin en ville de Genève. Mais les endroits privilégiés pour construire aujourd'hui, c'est pas en premier lieu la ville de Genève, parce que en ville de Genève, on a déjà fait l'essentiel. En revanche, il y a un certain nombre d'endroits qui sont identifiés par le plan directeur cantonal comme étant les endroits où on fera les nouveaux quartiers. Alors, où est-ce on parle de quoi ? On parle tout d'abord de Mérin. Mérin, les Vergers, magnifique projet alors.
Tout de suite, pour 2008.
Oui, même 2007, j'espère, fin 2007, début 2008. Voilà. Magnifique projet parce qu'on a les transports publics, parce que la question de la gestion de l'énergie est gérée, la question de l'eau est gérée, enfin on a un très très beau projet.
Et il y aura le tram.
Oui, le tram va s'arrêter dans le quartier. Autre projet, la chapelle Lessier. La chapelle Lessier, c'est le Bachet de Pesé. Là aussi, très beau projet, deux communes qui ont bien participé à la façon dont on l'a mis sur pied, Lancy et Plan-les-Ouates. Et puis, dans ce projet, on a aussi une très très bonne desserte en matière de transport public. Et puis, troisième grand projet phare, évidemment les communaux d'Ambilly.
Avec peut-être un éco-quartier.
Là, on a de la place avec toutes sortes de choses parce que ce projet est conçu pour qu'on ait le droit d'avoir beaucoup d'idées, puisque... tout le projet, c'est un certain nombre de pièces urbaines, c'est-à-dire c'est un tas de petits quartiers, un tas de gros villages qui sont imaginés, et on pourrait même se dire que chacun pourrait avoir son identité, et qu'il pourrait y avoir des idées différentes sur comment réaliser ces pièces urbaines.
Il semble que ce soit principalement des communes qui sont politiquement à droite et qui n'ont pas du tout envie de voir ces logements sociaux.
Il n'y aura pas que des logements sociaux de toute façon nulle part. J'entends ni en ville de Genève ni ailleurs. Il n'y a aucun projet qui est 100% logement social. Et puis, il n'y a aucun projet qui est 100% PPE, etc. On voit à peu près, en matière de politique du logement, on voit à peu près ce dont on a besoin. On a besoin de répondre à la demande. Et la demande, elle porte sur tout. Elle porte et sur la PPE et sur les coopératives. Et sur le loyer libre, et sur les logements subventionnés ou aidés. Finalement, l'objectif actuel du Conseil d'État, c'est véritablement d'essayer de constituer un véritable socle de logements pérennes, c'est-à-dire de tirer les leçons de la politique des HLM. Vous savez quel est le problème des HLM ? C'est que les HLM, c'est un système de subvention qui est donnée à des gens pour qu'ils construisent des logements, mais à un moment donné, ces logements sortent du régime HLM. Donc, c'est une espèce comme ça de cavalerie où, comme il y a des logements qui sortent du régime HLM, il faut immédiatement arriver à reconstruire pour en faire d'autres, pour en faire d'autres. Finalement, la collectivité, elle paye, mais elle ne paye pas. Elle pérennise pas. Et si on rentre dans des phases comme celles qu'on a connues dans les années 90, où on construit moins, eh bien, il y a beaucoup plus de logements qui sortent du régime que de logements qui y entrent. Donc, au Conseil d'État, maintenant, on considère qu'il faut mettre fin à cette régulation-là en matière de logement social et se fixer comme objectif d'avoir un socle important de logements pérennes, c'est-à-dire de logements qui ne sortiront jamais d'un système qui maintient les loyers bas.
Oui, parce que en fait, l'idée forte, c'est peut-être que Genève a absolument besoin d'un vrai bien collectif en matière de logement, et pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, en dehors de la crise du logement tendu qu'on connaît aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de fabriquer à nous une espèce de ressource collective. Donc, comme il y a la nappe phréatique qui est une ressource collective, il faut un socle de logement. L'expression est très juste, effectivement, qu'on puisse pérenniser, qu'il soit un bien collectif, et pas forcément pour les classes les plus favorisées. C'est-à-dire qu'il y a des seuils d'accessibilité selon les revenus, mais ça peut permettre de favoriser la mobilité des ménages également au sein de l'agglomération. Donc ça c'est fondamental. Et ça produit du sens collectif. On est au-dessus des enjeux particuliers, des petits pavillons qui se battent, les petites villas, etc. Un vrai socle de logement pérenne en système locatif.
Et dès l'instant où on a ce socle de logement pérenne, on décrispe considérablement la question de la proportion, est-ce que deux tiers, un tiers ou pas, parce que on n'a pas cette nécessité de passer son temps à produire du logement social, parce qu'on sait qu'en même temps, il y en a qui sort du régime subventionné. Donc on rentre dans des systèmes de régulation totalement différents. À quoi s'ajoute que... les coopératives, ça c'est quelque chose auquel nous sommes nombreux au Conseil d'État à croire ardemment.
Oui, oui.
Et là aussi, on a un petit peu abandonné le logement coopératif à Genève pour diverses raisons. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut véritablement que nous aidions les coopératives.
Oui. D'autant plus, ça a été un moteur en Suisse alémanique extraordinaire pour ce qu'on peut appeler les renouveaux urbains de Bâle et Zurich, notamment. Donc, c'est vrai que là encore, on fabrique une espèce de système fort.
Mais c'est très juste de le rappeler. Moi, je trouve que c'est très significatif de voir qu'à Genève, les premiers modèles d'immeubles minergie, parce qu'à Genève, on nous expliquait que c'était impossible. Eh bien, ce sont les coopératives qui l'ont réalisé.
Ouais.
Alors qu'elles font très peu de choses parce qu'elles construisent peu, elles sont pas encore assez puissantes. Eh bien, voilà que les premiers immeubles énergie, selon elles qui le font, c'est extrêmement significatif.
Et Robert Kramer, pour un autre projet qui concernait la Praille et les Acacias, est-ce que l'apport par le concours des architectes FAS est toujours considéré, puisque eux proposaient de construire à peu près 20 000 logements et également une zone industrielle mixte?
Alors, ceux qui ont écouté le discours de Saint-Pierre le savent, le Conseil d'État a pris position. Et dans le discours de Saint-Pierre, il a dit quoi? Il a dit, en matière de construction, on va construire, dans le cadre du plan directeur, c'est une indication forte, parce que ça veut dire on n'est pas parti pour des aventures inconnues, plus la Praille Acacia. Et le plan directeur, nous avons fait allusion aux projets qui vont se développer au quartier, qui sont actuellement en voie de constitution. En ce qui concerne la Praille, évidemment, ça c'est extraordinaire. C'est une immense surface qui va poser des problèmes extrêmement intéressants. Alors, on s'est mis au travail. Il y a une équipe de projet qui s'est constituée au sein du département et même au sein de l'État de Genève, parce qu'on travaille bien sûr beaucoup avec nos collègues du DCTI. Et la première chose qui a été faite, et ça j'ai voulu qu'on le fasse, c'est un inventaire patrimonial. Est-ce qu'il y a des choses que l'on doit préserver? Ça, c'est très important, parce que je veux qu'on sorte aussi de cette logique où on développe tout un projet, puis tout à la fois, on nous dit, mais vous pouvez pas toucher à cette maison parce qu'elle est extraordinaire, c'est juste celle qu'il ne fallait pas mettre dans le projet. Bon. Alors, un inventaire patrimonial, un inventaire des emplois, un inventaire des logements, que l'on sache de quoi on est en train de parler. Et puis, qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on ne veut pas garder? Alors, cet inventaire, m'a-t-on dit, il est terminé, ou il est censé l'être actuellement d'après les échéances qu'on s'était fixées. Puis maintenant, on pourra passer aux étapes suivantes. Donc, on est à peu près dans notre planification sur ce que l'on souhaite faire, et on va bientôt rentrer dans une phase de communication pour montrer ce que nous avons fait et comment on va continuer à travailler.
Sauf que le « on veut garder où on peut », c'est du courage politique. Donc là, c'est quand même directement le patron, enfin, ou les deux patrons, bien sûr, entre aménagement et territoire et logement.
Alors le « on », il est très... Quand je dis « on », c'est l'État de Genève. Et puis l'État de Genève, il y a un pilote de ce dossier, il s'appelle Robert Kramer.
Voilà, d'accord.
Donc vous correspondez l'année dernière, lorsqu'il y a eu des discussions...
Si, Robert Kramer.
Il y a eu des discussions assez violentes l'an passé. Et plusieurs des intervenants, je pense à Bruno Contès et d'autres, au moment de la présentation, disaient que c'était le chef du département du territoire qui devait prendre le leadership. Voilà, là, donc, leurs vœux sont exaucés.
Surtout qu'on a regardé, nous.
Ouais. Mais enfin, bon, d'un autre côté, il faut aussi dire cela en ayant en tête que mon métier à moi, c'est ni d'être aménagiste, ni d'être un spécialiste de la qualité de l'air, ni mon métier à moi, c'est d'être un politicien. C'est mon job et c'est mon métier actuel. Donc, quand on dit c'est le chef du département qui que quoi, ça veut dire très concrètement, la responsabilité du chef du département, c'est de constituer des équipes, c'est de désigner des gens compétents pour les piloter, c'est de s'assurer que les délais sont respectés, c'est de s'assurer que les cadres budgétaires sont respectés. Mais après, il y a aussi des gens qui sont compétents et c'est eux qui travaillent.
Mais c'est aussi en fonction de votre engagement politique, par exemple pour les Verts, dans le développement durable et autres, qui est quand même le meilleur moment pour faire passer des idées, puisque la population est acquise.
Bien sûr. Alors, à ces équipes, il faut s'assurer que le cahier des charges qu'elles se donnent ou qu'elles vous proposent correspond à ce que vous souhaitez.
Robert Kramer, à première vue, la région métropolitaine lémanique est une région privilégiée qui a tout pour plaire, cadre naturel, paysage pittoresque, bonne qualité d'infrastructure, fiscalité modérée. Cette semaine, on a vu dans la presse que c'était la troisième ville la plus reposante et la plus agréable de Suisse. À ce niveau...
Non, on ne parle plus de la région, on parle plus que de Genève.
On ne parle plus que de Genève maintenant. Par contre, au niveau économique, dans un ouvrage récent, Bruno Contès trouvait que la région stagnait parce que la productivité et le taux d'occupation étaient inférieurs. Comment, dans ce contexte, pouvoir préserver, si vous voulez, ce cadre idyllique et en même temps donner les moyens d'acquérir une meilleure productivité?
Encore une fois, je crois qu'il faut faire très attention aux échelles et aux cartes. Si votre échelle, c'est l'échelle... de Genève, c'est-à-dire de cette agglomération franco-valdo-genevoise. On est un des endroits d'Europe où la croissance est la plus forte actuellement. C'est juste une réalité. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a circulé ici. On va d'ailleurs du reste s'en rendre compte lorsque on va parler des rentrées fiscales qu'elles seront établies. Et pour cette année et pour l'année prochaine, actuellement, on est... Tous les indicateurs...
Voilà, il n'y a aucune crise des financements publics.
Ça marche de partout, j'entends. Tout ce qui est exportation fonctionne, mais ça fonctionne déjà depuis plusieurs années. Et maintenant, en plus, il y a une forte demande intérieure. En revanche, si votre carte, c'est celle de Xavier Contès, et que dans votre carte, vous avez toute la Suisse romande et un peu au-delà, effectivement...
Il y a des disparités.
Des disparités qui sont extrêmement fortes et que nous connaissons. Et la carte de Xavier Contès, elle n'est pas imaginaire, elle a beaucoup de sens. Elle a un sens par rapport au développement économique d'une région, par rapport à une promotion économique commune, etc. Mais disons, on n'est pas exactement sur les mêmes échelles. C'est ce à quoi je voulais vous rendre attentif. Donc nous, aujourd'hui, les Genevois doivent se rendre compte que ce que nous avons à gérer, c'est notre prospérité. Cette prospérité qui fait qu'il y a 50 000 personnes qui traversent la... qui ont un statut de frontalier et qui en connaît encore bien plus, parce qu'il y a encore ceux
Des déclarés 150 000,
et il y a aussi tous les Suisses et tous les Genevois qui habitent en France, qui n'ont pas un statut de frontalier, mais qui traversent aussi la frontière. Vous savez qu'il y a tous les jours actuellement 200 000 mouvements entre Genève et la France, c'est-à-dire 200 000 personnes qui souhaitent viennent dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, les gens généralement en font au minimum deux. Plus de 90 000 mouvements entre le canton de Vaud et le canton de Genève. Donc c'est 300 000 mouvements quand même qui se passent autour de Genève. Ça montre la vitalité, disons, de ce qui se passe ici.
Et cette mobilité, comment l'améliorer? Actuellement, il y a les grands projets du SEVA.
Alors cette mobilité, d'abord, il faut dire qu'elle devient de plus en plus problématique. Elle devient de plus en plus une source de souffrance. Une source de souffrance pour les gens qui restent coincés dans leur voiture pendant une heure et demie pour aller travailler, une source de souffrance pour toutes les localités qui sont traversées par ce trafic, une source de nuisance et qui peut porter atteinte à la santé, nuisance sonore, pollution de l'air. Et nous avons véritablement un devoir d'offrir des alternatives à cette mobilité. Ça se décline sur plusieurs points. Un, il s'agit de développer les transports publics. C'est essentiel. Et développer les transports publics au niveau régional, c'est le rail. C'est le RER, c'est le projet CEVA, la liaison Cornavin ou Yvan-Masse, mais qui, évidemment, n'a pas du tout pour but de relier Cornavin à Annemasse, mais a pour but de créer un véritable réseau, en tout cas, dans un rayon de 40 km autour de Genève. Réseau que nous avons planifié ensemble avec nos partenaires français, pour lesquels nous sommes actuellement en train de créer les structures juridiques qui permettront d'animer. À côté de ce réseau ferroviaire, il y a bien sûr toutes les dessertes qui devront se faire sur les gares, par tram, par bus, par voiture aussi dans certains cas.
Par vélo, comme au Japon.
Par vélo.
Oui, on fait plus facilement 3 km pour aller à une gare de proximité.
À côté de cela, il y a bien sûr l'organisation des déplacements dans des rayons plus proches. Ça s'appelle la mobilité douce et c'est les déplacements à pied en bicyclette. On a parlé des déplacements, mais parler des déplacements, ça nous ramène aussi à l'aménagement du territoire. Ça veut dire que l'on doit construire beaucoup plus à Genève de façon à raccourcir les distances et à éviter cette mobilité inutile. Et puis, c'est aussi agir sur d'autres plans. Et il y a un plan qui me paraît très prometteur, c'est toute la problématique de la mobilité d'entreprise. Il faut véritablement inciter les entreprises à avoir des projets de mobilité et à offrir des alternatives à leurs collaborateurs. La ville de Genève a été pionnier dans ce domaine, en ce qui concerne les collectivités publiques. Le canton de Genève a développé un projet. Les Nations Unies, tout le système des organisations internationales sont également très engagés. Certains gros employeurs genevois le font aussi, Procter & Gamble notamment et d'autres. Donc il y a véritablement cette idée de mobilité d'entreprise, ces plans d'entreprise sont essentiels parce que c'est bien sûr aussi autour de ce trafic pendulaire que se créent l'essentiel des difficultés. Chacun a bien repéré que les embouteillages, ils se produisent généralement le matin et le soir, c'est-à-dire quand les gens vont travailler et quand ils reviennent du travail.
Est-ce que vous pensez que la gratuité des TPG, comme elle est souvent évoquée, pourrait être un incitative
Peut-être pas la gratuité, mais une fiscalité, comme la carte orange à Paris, avec l'inversement
des employeurs. La gratuité, pour ma part, je suis totalement convaincu que ça équivaut au démantèlement total des TPG. Parce que je vois pas où on ira. Aujourd'hui, les TPG coûtent à peu près 150 millions de subventions à une collectivité.
Ce qui est pas mal.
Ce qui est pas mal, mais je vois pas où on irait chercher les 300 millions nécessaires pour alimenter la gratuité. Donc on serait obligé avec 150 millions de faire tourner le système, c'est-à-dire qu'on offrirait 2 à 3 fois moins de prestations. Donc ça, c'est la première conséquence de la gratuité. La seconde, est-ce que c'est vrai que la gratuité incite les gens à prendre les transports publics? Non, bien sûr que non. Si je vous mets un bus toutes les 2 heures, s'il est il a beau être gratuit, vous le prendrez jamais. Si je vous mets un bus toutes les 5 minutes, même s'il est relativement cher, vous allez le prendre. Toutes les études montrent que ce qui fait que les gens prennent les transports publics, c'est leur efficacité. Oui. À tous égards, alors leur efficacité, la sécurité qu'il y a dedans, mais c'est essentiellement ce que les gens recherchent, c'est la vitesse et qu'il n'y ait pas de rupture de charge.
Plutôt gratuité, il faut un versement transport des employeurs, effectivement, généralisé à tout le canton.
Et si vous aviez la capacité, vous me disiez, écoutez, vous me dites, Robert Kramer, que la gratuité, c'est un truc qui va nous coûter 150 millions, voilà les 150 millions. Eh bien, moi, je prends vos 150 millions, je prends pas les transports publics gratuits, mais alors avec 150 millions, je peux offrir des prestations tellement extraordinaires que je fais exploser la fréquentation des TPG, beaucoup plus qu'en les rendant gratuits.
Et à cause de ça, vous voulez aussi faciliter les déplacements, notamment à vélo, qui semble aussi difficile, mais est-ce que là, vous vous heurtez, enfin, je crois qu'une fois, vous m'aviez répondu qu'il y avait pratiquement très peu d'accidents à vélo, est-ce que la sécurité ne serait pas aussi améliorée, c'est-à-dire par des pistes et autres?
Non, mais bien sûr, c'est pas parce qu'il y a peu d'accidents qu'il ne faut pas essayer qu'il y en ait moins encore. Et surtout, il faut inciter les gens à aller en bicyclette. Or, les gens, subjectivement, ont l'impression que le vélo est une activité dangereuse. C'est la raison pour laquelle nous devons multiplier les pistes cyclables et surtout éviter les ruptures sur ces pistes cyclables. À cela s'ajoute qu'il faut faire savoir que le vélo, c'est un véritable mode de déplacement aussi dans la couronne urbaine genevoise. Et actuellement, il y a des itinéraires cyclistes qui sont en train de se mettre sur pied. Il y en a déjà qui vont du côté de Vernier, il y en a qui vont dans la région Arvelac. et on va les multiplier de façon à ce que les cyclistes aillent leur route comme les automobilistes aillent leur route et qui les amènent sur des distances relativement longues. J'ai pris un certain nombre de ces itinéraires. Ils sont réellement très agréables à pratiquer. Ils sont extrêmement sûrs, mais ils ne sont pas seulement sûrs. C'est un beau déplacement que l'on fait à travers les quartiers de Genève.
On est dans le changement de paradigme.
Parmi les, donc, je crois qu'il est calculé que 3 habitants sur 4 actuellement cherchent toujours à s'installer en zone urbaine. Et bon, bien sûr, avec le transport, est-ce que bon, on avait parlé de la surélévation des immeubles avec Bruno qui les réservait aux milliardaires. Est-ce que véritablement des penthouses pour milliardaires et bon, prétendant aussi que seulement les plus riches, vu les loyers au centre-ville, pourraient s'installer à Genève et à ce moment-là que les loyers modérés et faibles devraient se contenter des habitations bien plus loin en France.
Ouais.
Vous aviez aussi, je crois, une fois, parlé des ONG que vous vouliez, vous voyez facilement les ONG en masse et puis les diplomaties plutôt à Genève.
Oui, mais il y a un côté réel politique aussi qu'il faut pas nier, hein.
C'est pas, non, disons, parce que plusieurs éléments. Un, bien sûr que on doit chercher la mixité d'habitants partout et toujours, parce que si on ne l'a pas, on sait qu'on crée des quartiers à problème.
Mais il n'y a pas de ségrégation.
Et quand il y a un quartier à problème qui est créé, c'est pas simplement un problème pour ce quartier-là. C'est un problème pour tout le monde. Quand on a le quartier du Perrier
à Annemasse,
voilà. C'est pas uniquement un problème pour ce quartier-là, ni un problème uniquement pour Annemasse. C'est vraiment un problème pour toute la collectivité. Et on se préoccupe plus des frontières à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et ça va un peu dans le même sens, il s'agit de l'implantation, cette fois non plus des personnes, mais des emplois. Bien sûr que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que l'on implante des activités en France voisine. Tout le monde a y gagné. On a y gagné du côté de Genève parce que ça permet de réduire un certain nombre de problématiques liées à la mobilité. La France voisine y a gagné par une diversification. Et puis, selon comme les choses se font, on peut trouver des synergies tout à fait intéressantes. Alors, on parlait des organisations internationales, effectivement. Ça aurait beaucoup de sens de dire ONG. Les organisations internationales proprement dites qui dépendent d'accords de siège, bien sûr que elles vont rester à Genève, mais les ONG, ça aurait beaucoup de sens de leur préparer des cadres pour que ce soit incitateur pour eux de s'installer en France voisine. Et je sais, par exemple, on parlait d'Annemasse, mais on peut en reparler, Annemasse serait très intéressée autour de la gare qui va se faire, la gare
Seva,
de l'étoile d'Annemasse, d'avoir un certain nombre de lieux dévolus à des ONG. De la même façon, en ce qui concerne les activités industrielles, on voit bien qu'à Genève, maintenant, on va arriver à un moment où ça va coincer. Hein. Je suis le président de la Fondation des terrains industriels.
Voilà, la FTI.
On va avoir des difficultés à savoir où est-ce qu'on va mettre des industries. Mais pourquoi ne pas imaginer que, indépendamment de toutes les autres possibilités, surélévation des terrains, zones industrielles, etc., éventuellement création de nouvelles zones industrielles, pourquoi ne pas imaginer qu'un certain nombre d'industries puissent s'installer en France voisine, tout en gardant, parce qu'apparemment cela est recherché, leur direction à Genève, et cela finalement c'est une affaire d'arrangement des statuts fiscaux et juridiques, et il y a des gens qui sont en train de plancher là-dessus. Je pense que c'est une voie, alors elle ne sera pas généralisée, mais elle pourrait avoir un intérêt pour quelques entreprises.
Là, il est possible d'obtenir un accord avec la France d'une autre manière, parce que la France n'a pas le même mode de gouvernance. Vous pouvez décider pour le canton des accords que, là, je crois, ça rentre dans les accords du Karlsruhe.
Ah, pour faire des GLCT, des
groupes locaux. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, mais il y a quand même des trucs qu'on ne peut pas faire.
On peut difficilement changer la fiscalité.
Disons,
France,
dans la gestion dans les règles qui gèrent la fiscalité, la constitution des sociétés, quelles que soient les puissances terribles qu'ont les cantons en Suisse.
La Robert Kramer devient tout rouge face, effectivement, à Matignon et à l'Élysée réunie.
Bon,
par contre, on a beau être le roi de Genève, on s'arrête des fois.
Il y a quelques limites.
Voilà. Non, mais c'est absolument indispensable, cette synergie avec la France. De toute façon, c'est un beau chantier, parce que le transfrontalier, c'est ça. On citait en aparté, pendant la petite musique, des exemples entre la France et l'Italie, ou la France et la Belgique, où ils sont arrivés à fabriquer quand même des nouvelles machines hospitalières en commun. Alors, c'est vrai que c'est l'Europe, c'est un peu plus facile, mais malgré tout...
Oui, mais ça, on est en train de travailler aussi là-dessus, c'est parce que ça, là aussi, on est sur des aberrations. Quelqu'un qui a un problème de santé, qui habite juste à côté de l'autre côté
qui
de la frontière.
Qui habite à Nice, on l'envoie à Lyon ou à Chambéry.
Ben oui, on l'envoie à Lyon ou à Chambéry, alors qu'il a un hôpital qui est à 5 km de chez lui. Et ça n'a réellement pas de sens. Alors on a, Dieu merci, pu mettre fin à cette aberration concernant les urgences médicales. Mais il faudrait mettre fin à cette aberration de façon plus générale.
Pour les entreprises.
On est en train de travailler là-dessus. De la même façon, il y a d'excellentes formations d'infirmières et d'infirmiers en France voisine, immédiatement ici. Personne ne se préoccupe de savoir quel est le rapport entre ces gens et l'hôpital cantonal de Genève, alors que finalement, c'est quand même ici qu'ils viennent travailler.
C'est le principal employeur, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est de l'intervention publique concrète. Mais en même temps, ce sont des chantiers en devenir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la dictature directe. On fabrique des chantiers opérationnels sur 2, 3, 4, 5 ans.
Et pour en venir peut-être à ce qu'on se disait d'ailleurs au début de l'émission, c'est de cela qu'on doit parler. Il faut avancer là-dessus. Après, les institutions vont suivre.
Ouais. Il faut également le faire comprendre ou le faire admettre aux populations. Et c'est pour cela que dans les projets transfrontaliers, vous avez prévu des réalisations culturelles qui puissent permettre d'obtenir... ce sentiment d'appartenance.
On essaye de communiquer. Mais là, c'est vrai que c'est très frappant de voir que les niveaux d'information et d'engagement sont extrêmement variables. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les élus des deux côtés de la frontière ont une conscience aiguë de l'importance du transfrontalier. Et puis ensuite, au niveau de la population, ça se dégrade... Ça va de la conscience des gens qui traversent la frontière au quotidien et qui vivent le transfrontalier, pour eux c'est une évidence, jusqu'aux gens qui habitent à Plainpalais ou aux eaux vives, pour qui ça n'existe simplement pas, le monde pour eux est le même qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans, alors qu'en réalité Genève a changé radicalement, mais ils ne le savent pas. Ils ne sont pas confrontés à ça dans leur quotidien.
Et d'après les chiffres publiés par une brochure de votre département, il semble que dans ces réunions qui concernent toute la gouvernance transfrontalière, il y ait plus de Français. Je crois qu'il y a 65% de Français et 35% de
Tout à fait. Ces réunions sont extrêmement suivies par les magistrats français et le sont avec beaucoup moins d'assiduité par les magistrats genevois. Peut-être aussi parce que nous n'informons pas suffisamment. Là, je veux bien faire cette autocritique.
C'est puis un petit effet pervers, c'est que les Français ont été un peu stimulés par Paris avec la Datar, donc pour faire cette métropole genevoise. Donc eux, ils se trouvent dans une espèce de métropole en ébullition, quand même, du côté français, avec un trou au milieu qui est Genève, donc qui n'est pas la France. Donc du coup, ils sont obligés de tricoter pour faire avancer le chantier beaucoup plus.
Je pense aussi que la centralisation genevoise a beaucoup à voir dans cette histoire.
Quand on parle
d'aménagement du territoire, en France, c'est souvent le maire et les adjoints qui le font eux-mêmes. Alors qu'à Genève, c'est une administration qui le fait. Donc il y a une forme de déresponsabilisation par rapport à un certain nombre de débats.
Oui. Alors Robert Cramier, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Nous avons parlé de développement durable. Grâce à votre action, maintenant, les Genevois n'utilisent plus d'électricité d'origine nucléaire. Vous avez fait beaucoup pour les rivières. maintenant, hydraulique. Quels seraient vos grands projets ou les grandes... ce que vous aimeriez réaliser dans ce domaine?
Et pour moi, le chantier d'énergie reste un chantier qui est réellement prioritaire et je crois que tous les jours, on s'aperçoit de son importance croissante. Aujourd'hui, les gens se font de la guerre pour l'énergie. Aujourd'hui, on voit que l'augmentation du prix du pétrole va amener des problèmes considérables à toutes les sociétés, aussi bien les plus développées que celles qui le sont moins, parce qu'elles vont être confrontées à des très grandes difficultés de ressources. On voit les bouleversements que cela produit sur les cartes géopolitiques. Donc, bien sûr, moins que jamais, il ne faut se désintéresser de ce dossier. Qu'est-ce que cela veut dire très concrètement? Cela veut dire d'abord très concrètement que Genève aujourd'hui va construire des milliers de logements. Il y a des nouveaux quartiers que nous allons construire. Une fois qu'ils seront faits, ils seront là pour des dizaines d'années. Nous ne devons pas rater le coche. Le concept énergétique de ces quartiers sera d'une grande importance. C'est nouveau dans la législation genevoise et dans l'esprit genevois que de se dire que lorsqu'on construit un quartier, on doit construire, on doit avoir un concept énergétique, on doit savoir comment on va gérer l'énergie dans ce quartier. On le fait. Au Verger, il y a un concept énergétique de qualité qui a été réalisé, il le sera pour les autres quartiers. Et ça, c'est réellement très très important. Ça, c'est les consommations, évidemment, d'énergie qui sont liées au chauffage. Au-delà de cela... Il faut continuer à asséner les petites recettes de cuisine, les petits messages sur comment économiser de l'énergie, parce que la plus grande énergie renouvelable, c'est celle que l'on n'utilise pas. Et ça se fait dans tous les domaines. Si vous êtes obligé de conduire une voiture, il y a quelque chose qui s'appelle EcoDrive, c'est conduire sans agressivité, vous économisez 10% de l'essence que vous consommez, c'est une voiture sur 10 en fait qui roule sans consommer d'énergie. Et en plus vous faites moins d'accidents et en plus vous êtes moins stressé. Évidemment le mieux, vous consommez encore moins d'énergie en n'utilisant pas votre voiture, ça va de soi. C'est éviter les petites lumières rouges qui sont ces petits témoins qui sont sur vos qui vous permettent d'alimenter vos télécommandes diverses et variées. Un petit geste qui consiste à appuyer sur le bouton, mais sur off, et vous permet d'économiser considérablement d'énergie, etc. Je veux dire, tous ces petits tuyaux, il faut continuer à les répéter, parce que là, on ne se prive de rien au niveau des fonctionnalités, mais en revanche, on fait des choses considérables pour préserver son environnement.
Merci, Robert Cramer.
Merci, oui, on a compris que grâce à Robert Cramer, du côté français, il y avait des maires qui étaient peut-être potentats, et qu'à Genève, ce n'est pas d'administration, c'est un super maire qu'on a.
C'était la conclusion de Bruno Bessière.